Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Philo. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la question « Faut-il combattre le mal par le mal ?» Athènes, 399 avant Jésus-Christ. À l'ombre de la Pnyx, cette colline où se tiennent depuis des décennies les votes de l'Assemblée du peuple, le philosophe Socrate est incarcéré dans la prison d'État. Suite à un procès dont nous avons parlé dans les deux derniers épisodes du Coin Philo, et au terme duquel il a été condamné à mort pour impiété et corruption de la jeunesse, Socrate attend patiemment. Il attend qu'on vienne lui porter la ciguë, ce poison qu'il devra boire et qui mettra un terme à son existence. Une existence dédiée à la recherche de la sagesse et de la vertu. Il peut, entre guillemets, s'estimer chanceux. À cette époque, il n'est pas rare que les condamnés à mort soient étranglés sur une planche de bois à laquelle on les a préalablement attachés, ou qu'on les jette du haut d'un précipice. Si Socrate bénéficie d'un traitement de faveur, c'est peut-être parce que plusieurs de ses amis appartiennent à l'aristocratie et qu'il jouit d'un certain statut dans la cité. Cela fait maintenant un mois que celui qui a toujours prétendu ne rien savoir attend son suicide forcé. Un jour, alors que les ténèbres n'ont pas encore dit leur dernier mot, Socrate est arraché de son sommeil par une présence. C'est son ami et disciple Criton, un riche aristocrate qui est venu lui rendre visite. Mais la raison de sa présence n'est pas joyeuse. Si Criton est venu de si bonne heure, c'est pour lui annoncer que le moment fatidique de son exécution approche à grands pas. Désespéré, il supplie Socrate d'accepter sa proposition. Grâce à ses contacts et à ses moyens financiers, il peut facilement soudoyer les gardiens de la prison et organiser l'évasion de Socrate, lequel pourra donc échapper à l'injustice dont il est victime et poursuivre paisiblement son existence à l'abri de ceux qui veulent sa perte. Il faut noter que cette rencontre entre les deux hommes, ainsi que la discussion qui en découle, est loin d'être historiquement avérée. Et bien qu'il semble que Socrate ait effectivement refusé de s'enfuir de prison, il faut demeurer prudent. Cet épisode puise son contenu dans un dialogue de Platon, le plus célèbre des élèves de Socrate, qui, on en a déjà parlé, a fait de son mentor le personnage principal de ses œuvres, l'élevant au rang de légende. Afin de persuader Socrate, Criton emploie différentes stratégies rhétoriques qui ressemblent plus à des paralogismes et à des sophismes qu'à des arguments rationnels. D'abord, Criton fait appel aux émotions de Socrate. Perdre un ami comme lui serait une source de malheur incroyable. Et puis, que penseront les gens? Ils ne croiront sans doute pas que Socrate a refusé de s'évader, et ils en concluront que Criton a choisi l'argent plutôt que l'amitié. Quelle réputation honteuse à assumer! Enfin, en choisissant la mort, Socrate accepte que ses enfants deviennent orphelins. N'est-ce pas un signe de lâcheté, lui qui a mis son existence au service du courage et de la vertu? Cette décision, à coup sûr, rejaillira négativement sur l'ensemble de ses amis et de ses disciples, et c'est tout son héritage intellectuel qui en sera taché. Imperturbable, Socrate prend la parole. « Ah, mon cher Criton, j'ai pour principe de n'écouter en moi qu'une seule voix, celle de la raison qui, à l'examen, me semble la meilleure. » Et c'est le début d'une démonstration typiquement socratique, au cours de laquelle le vieux philosophe va réfuter les arguments de son ami les uns après les autres. Fidèle à ses habitudes, Socrate commence par faire une analogie. Un gymnaste qui s'entraîne durement devrait-il plutôt écouter les conseils de la foule ignorante ou plutôt ceux de son entraîneur, qui est compétent en la matière? N'en est-il pas de même pour la différence entre le juste et l'injuste? N'est-ce pas la foule des juges qui a voté démocratiquement l'injustice dont Socrate est victime? Autrement dit, parmi les opinions, n'y a-t-il pas une raison légitime de vouloir suivre celles qui sont vraies plutôt que fausses? Après avoir rappelé à Criton que, je cite, « l'important n'est pas de vivre, mais de bien vivre », signifiant par là qu'il faut toujours agir en vertu de ce qui est bon et juste, Socrate déroule sa logique. Lorsqu'on commet une injustice, on fait le mal, et on devrait en avoir honte. Or, s'évader de prison, c'est justement commettre une injustice. En conséquence de quoi, on peut déduire que s'évader de prison est une mauvaise action qu'il ne faut pas entreprendre. Mais Socrate ne s'arrête pas là, et dans une tirade célèbre du Criton de Platon, il se met à discuter avec Athènes. Oui, vous avez bien entendu, Athènes. Si cette dernière était une personne, et si cette personne demandait à Socrate pourquoi il s'était enfui, que répondrait-il ? S'ensuit alors une étonnante conversation fictive. La cité, qui a soudainement pris vie dans notre imagination, fait subir à Socrate un examen rigoureux et méthodique, qui n'est pas sans rappeler, évidemment, la médecine que le philosophe administrait aux prétendus sages qu'il faisait sortir de leur double ignorance. Habitué de poser les questions, le philosophe doit cette fois-ci y répondre. « Socrate, tu es né chez moi, tu y as grandi, tu me dois la vie. C'est grâce à mes lois que tu as reçu ton éducation. Ce sont ces mêmes lois que tu as défendues lorsqu'à quelques reprises, tu es parti à la guerre et que tu as combattu comme soldat d'infanterie lourdement armé. C'est ici que tu as décidé d'avoir des enfants, de les élever. Pendant 70 années, alors que tu aurais pu déménager loin d'ici, tu as fait le choix de rester, car mes lois te convenaient. Pire, au terme de ton procès, alors que tu aurais pu proposer l'exil, tu as préféré choisir la mort. Et maintenant, alors qu'on t'apportera bientôt le poison, tu serais prêt à violer ces mêmes lois que tu respectais jadis, sous prétexte que tu considères avoir subi une injustice ? Tu n'auras pas honte de les enfreindre, sous prétexte qu'elles ne te conviennent plus ? Pourras-tu supporter le grotesque de la situation lorsqu'il te faudra raconter à ceux qui t'accueilleront en exil que tu t'es enfui de ta cellule en pleine nuit, accoutré d'un ridicule costume pour qu'on ne te reconnaisse pas ? Et puis, une cité pourrait-elle correctement fonctionner si ses citoyens décidaient du jour au lendemain de ne plus respecter ses lois ? Autrement dit, pour Socrate, il est clair que le fait de subir une injustice n'autorise pas celui qui en est victime à commettre à son tour une injustice pour tenter de la réparer. Il faut donc respecter la loi, même lorsque la loi est injuste. D'un point de vue argumentatif, c'est le sophisme de la double faute que Socrate est en train de réfuter. Subir un mal n'est pas une raison légitime pour faire le mal. Et si on veut s'opposer à la loi, il faut tenter de la changer dans les limites qu'elle prescrit. Cette position, il faut le dire assez conservatrice, n'est pour autant pas irrationnelle. Elle nous rappelle également un autre personnage, encore plus connu que Socrate, et qui, 400 ans plus tard, prêchera qu'il ne faut pas rendre le mal par le mal. Il s'agit bien évidemment de Jésus. Bien qu'il soit risqué, voire erroné, de voir en Jésus un autre Socrate, force est de constater qu'ils ont quelques points en commun, dont celui-là. Faut-il combattre le mal par le mal ? Les derniers moments de la vie de Socrate ont été immortalisés par Platon dans un autre dialogue, le Phédon. L'ennui, c'est qu'encore une fois, il est impossible de savoir avec certitude si la mise en scène de l'ancien disciple devenu philosophe correspond à la réalité. Il faut pourtant reconnaître qu'elle est cohérente avec le personnage. Entouré de sa famille et de ses amis en pleurs, à l'exception de Platon qui, semble-t-il, était malade ce jour-là, Socrate utilise le temps qu'il lui reste pour les rassurer avant de finalement boire le poison sans trembler ni fléchir. N'est-ce pas de toute façon lui qui, lors de son procès, déclarait que ses accusateurs pourraient le tuer, mais que jamais il ne pourrait lui nuire ? Alors non, la mort pour Socrate n'est pas un mal. Il serait en revanche pire de se renier en commettant une injustice pour tenter d'échapper à ce qui, ultimement, doit se produire, peu importe notre volonté. En refusant de s'évader, Socrate entre dans la légende. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ?